Nous sommes par téléphone avec Jean-Stéphane Bron. Bonjour, bonsoir. Voilà, vous êtes quasiment pas de course là entre les avant-premières entre Bienne et Berne. Vous nous accordez votre précieux temps, merci beaucoup, pour parler de votre nouveau film, 5 nouvelles du cerveau. Un film qui nous entraîne dans une sorte de périple, presque une enquête judiciaire sur les arcanes du cerveau, grâce à des travaux de chercheurs. Cinq chercheurs, vous avez réparti en cinq chapitres. Le fait que l'intelligence artificielle puisse bientôt remplacer l'humain inquiète et en même temps séduit. C'est une des thématiques abordées par ce film. Comment est né ce film? Quelle est la genèse? Comment vous êtes penché sur cette aventure?
Ah, je crois qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a un point de départ qui est simplement une fascination, une curiosité et puis un intérêt pour la science en général, mais en particulier pour les recherches sur le cerveau. Donc, il y avait, voilà, c'est un sujet qui m'intéressait. Mais aussi, il y avait un désir de cinéma, c'est-à-dire de se dire est-ce que c'est possible de faire un film, un documentaire de science-fiction, de se projeter dans un futur très lointain à travers des questions qui sont aujourd'hui en jeu dans les laboratoires. Voilà, c'est un peu ça le point de départ.
On imagine que vous avez rencontré beaucoup de personnes, vous avez conservé cinq intervenants, cinq chercheurs, et quelle a été la difficulté peut-être de sélectionner les personnes? Peut-être c'est aussi lié à leur différence de point de vue. Comment avez-vous effectué ces choix?
Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré des gens, mais moi, ce que je cherchais, c'était une histoire. Donc, je n'ai pas tourné beaucoup d'histoires, et puis à la fin, j'en ai sélectionné cinq. C'est vraiment sur ces cinq-là que je me suis concentré. Et le choix, il était vraiment un choix narratif. C'était vraiment une. On peut vraiment remplacer le cerveau par. C'est un peu comme faire un film sur l'amour, on va dire. C'est une sorte de sujet infini qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, qui nous concerne, qu'on a pu expérimenter, etc. Mais donc, l'idée, c'était cette fois de se dire est-ce que je trouve avec telle ou telle personne une histoire qui va pouvoir répondre à une autre histoire, la questionner, l'interroger. Donc, ce choix de ces cinq scientifiques, chercheurs et chercheuses, il s'est fait vraiment de façon très intuitive, mais en même temps, parce que j'y voyais à chaque fois une possibilité de lier comme un peu des wagons, comme les wagons d'un train. J'étais lié, quoi. C'est pas cinq histoires complètement séparées les unes des autres. Elles ont un rapport entre elles, un rapport de questions, en fait, un peu comme une histoire amène une question qui conduit à une autre histoire, qui pose une question, qu'en amène une autre. Donc, c'était vraiment un choix narratif et un choix émotionnel, quoi. C'est-à-dire, je souhaitais que ces questions elles puissent s'incarner dans des personnages dont chacun pourra tirer quelque chose, s'identifier et vivre à travers chacune des histoires une émotion particulière.
C'est en effet le cas avec chacun de ces scientifiques et de ces chercheurs. Dès le premier chapitre, on rencontre Alexandre Pouget avec sa fille d'abord, puis son fils qui étudie à Oxford, qui est en post-grad à Oxford. Et on peut s'identifier justement à leur relation, puisque le père est pour vraiment l'hégémonie de la technique et des robots. Et le fils, lui, il a quelques réticences, il émet quelques doutes quand même, en espérant que l'humanité reste bien présente sur Terre. Donc, vous pouvez nous parler de cette rencontre avec Alexandre Pouget et ses enfants, s'il vous plaît, Jean-Stéphane
Ben,
Bern.
c'est vraiment cette première histoire sur laquelle j'ai construit tout le reste à partir de cette rencontre, justement, d'Alexandre Pouget, parce que d'abord, il avait un discours qui était pour moi très, très étonnant, choquant, qui me questionnait beaucoup dans mes propres convictions. Donc, je trouve toujours intéressant d'être confronté, en fait, à un discours qui est très éloigné de ce qu'on pense, pour se questionner soi-même. Donc, je me disais, tiens, sa façon de, sa vision, au fond, du cerveau, qui me questionne, bah, ça va faire le même effet au spectateur, quoi. Donc, voilà, c'est effectivement quelqu'un qui pense qu'on est engagé engagé sur une voie qui est d'après lui, inéluctable, d'un remplacement progressif de l'humanité par la machine, que c'est ce qu'on a, voilà, que c'est le chemin qui est en train d'être pris. Et puis son fils, qui est un jeune chercheur en intelligence artificielle, effectivement se questionne par rapport à ça, et s'interroge et se demande si c'est vraiment aussi inéluctable, s'il n'y a pas des contraintes qu'on pourrait... Enfin, donc, j'ai trouvé ce dialogue, au fond, intéressant, vraiment super touchant, intéressant, et puis bon, c'est aussi d'être bien l'histoire des pères et des fils, qu'est-ce qu'on transmet, est-ce qu'on s'y oppose, est-ce que, voilà, c'était une première histoire où je me suis dit, voilà, à partir de laquelle, au fond, tout s'est construit, quoi.
Et dans leur relation, il y a aussi quelque chose de très constructif, parce que le fils émet des doutes qui semblent un petit peu canaliser l'engouement du père.
Donc, exactement, il le questionne par sa... Disons, je pense qu'il incarne aussi une nouvelle génération de... Peut-être qui est propre à la jeunesse aujourd'hui, pas forcément dans le monde de la recherche, mais il incarne, disons, génération qui s'est peut-être repolitisée sur des questions, qui s'interroge sur l'avenir du monde, sur sur l'avenir de l'humanité, de la planète. Donc il est vraiment dans un autre questionnement que son père, et donc c'est assez beau qu'il soit dans ce dialogue-là, quoi.
Et oui, il est dans un questionnement philosophique. On passe d'ailleurs à une autre philosophie, c'est avec Christophe Corr qu'on retrouve à Seattle. Et lui, alors, il est vraiment... il veut percer le mystère de la conscience. Et en même temps, on réalise qu'il y a une part d'humanité qui est quand même bien cachée dans les premiers instants où on le rencontre. Quand il perd son chien, après, on a toute l'historique des chiens qui ont accompagné sa vie. Et on voit que même si on est un grand scientifique, on est persuadé que l'intelligence artificielle est la voie à suivre, il y a quand même les sentiments, une part d'humanité qui reste bien présente.
Oui, et puis surtout, je pense que c'est une vision qui s'oppose d'une certaine manière, ou qui est un peu un contradicteur. En fait, c'est là où je trouvais que les histoires devaient se répondre. En fait, sa vision du cerveau, hein, c'est comme des versions, on va dire, du cerveau. Il y a derrière une vision autre de l'être humain, dont on dit, voilà, il y a quelque chose d'irréductible à nous. Ce qui est irréductible, c'est notre conscience, c'est le fait qu'on ressente des choses. Et on peut imiter ça, hein, on peut être dans l'imitation. Mais c'est une vieille question philosophique, quoi. Est-ce que si la machine, et ça c'est la conviction de Pouget, du père, si la machine sait tout ce qu'on sait faire, alors quelle est la différence? Et la réponse de Corr, c'est de dire, ben non, il y a quelque chose, soit on imite, soit être, c'est encore autre chose, quoi. Donc, c'est cette qualité de l'être défini comme irréductible à nous, quoi. C'est ça notre part d'humanité. Et je pense que ce que Corr défend d'une certaine manière, c'est de dire, si on se voit comme des machines, si on voit le cerveau comme une machine, un mécanisme, etc., alors on va se machiniser, quoi. On finit par devenir ce qu'on croit qu'on est. C'est-à-dire, si on se voit comme, voilà, comme pure mécanique, alors on sera plus que ça, quoi. Donc voilà, Corr, il a cette alarme en se disant qu'il faut qu'on défende une part d'humanité, quoi, là-dedans. Voilà.
Merci Jean-Stéphane. Après, on a une rencontre grâce à vous et à votre caméra qui nous entraîne entre Venise et Munich, Niels Birnbaumer, qui est vraiment fascinant parce qu'il nous fait une démonstration filmée. J'imagine bien sûr que vous avez consulté les proches de ses patients et toute la famille pour pouvoir filmer. Mais c'est un moment intense, que ce soit à Munich ou que ce soit à Venise, où en fait, il arrive, grâce à la technologie, à faire parler et entendre ce que ressent une personne qui est bloquée dans son corps. Dans une sorte de...
Exactement. C'était une autre histoire. C'est pour ça que je la trouvais... corps d'humanité, donc... Qu'est-ce qui nous rend humain, qu'est-ce qui nous fait humain, dans sa définition. On parle de la conscience, qui est propre à nous, irréductible à nous. Et voilà, on voit un être humain tout à fait, voilà, qui cherche en fait à entrer en communication avec des gens qui ne peuvent plus communiquer de façon, de manière absolument forcenée, quoi. C'est-à-dire, et ce qui est beau là-dedans, c'est vraiment cette idée que ben, ce qui nous fait humain, c'est justement le dialogue, quoi. Je sais pas comment dire, c'est pouvoir se parler, c'est communiquer. Et donc, c'est ce qui, effectivement, qu'ils cherchent à faire avec ces patients qui sont complètement locked in, quoi. C'est vraiment, on connaît ça, c'est des gens qui sont parfaitement conscients, mais dont le corps ne réagit plus. Et donc, sa grande question à dire, c'était à bien moment, je me disais, mais alors, est-ce qu'ils ont envie de vivre? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'on ne leur pose pas la question? Et c'est ce qu'il a cherché à faire, oui, toute sa vie.
Voilà, puis grâce à vous et votre caméra, on rencontre à Venise un garçon qui est le frère d'une fratrie où il y a des sœurs qui sont présentes auprès des parents. Par contre, à Munich, c'est d'autant plus impressionnant et l'émotion est forte puisqu'il s'agit d'un jeune papa. Et le jeune papa, grâce à l'approche justement... vous êtes là ?